Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Au sommaire des enjeux, aujourd'hui, la Grèce et la Macédoine du Nord, un nouveau nom pour une très vieille histoire.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Très vieille histoire et nouvelle perspective. Ratification mardi par le Parlement de l'accord avec la Grèce du nouveau nom de République de Macédoine du Nord. Nouvelle donne bilatérale, voire bien plus. Bonjour Jean-Arnaud Derrins.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous depuis la Slovénie, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Alors, il y a trois niveaux d'implication pour cet accord. D'abord, bilatéral et régional, hein, c'est la fin du contentieux politique avec Athènes et des soupçons de visée territoriale. C'est donc un foyer de conflit en moins dans les Balkans. Implication géopolitique ensuite, puisque la Macédoine du Nord peut commencer la procédure d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Elle basculerait ou pencherait vers l'axe euro-baltique plutôt qu'eurasiatique. Enfin, sur le plan intérieur, pour conclure, les deux premiers ministres, Alexis Tsipras et Zoran Zaev, ont dû passer par-dessus leurs nationalistes respectifs, très vivaces dans les deux pays. Ils devront donc raffermir leur légitimité. C'est une vieille querelle, hein, disait Jacques Meunier. Accord finalement conclu avec de nouvelles personnes, Tsipras et Zaev. Et assez vite, en 5 mois, est-ce qu'il n'a pas été trop vite négocié, on pourrait dire ?
Écoutez, de fait, le contentieux durait depuis 27 ans et durant 27 ans, à peu près, aucun progrès n'avait été fait. Donc il fallait bien, d'une manière ou d'une autre, trancher le nœud, et le cadre de dialogue direct entre les deux premiers ministres, Alexis Tsipras et Zoran Zaev, a permis ce déblocage. En théorie, il y avait depuis des années un médiateur des Nations Unies chargé de la question, mais concrètement, celui-ci n'avait jamais obtenu le moindre succès. Donc là, on peut espérer que l'avancée enregistrée par la signature dimanche dernier à Prespa de l'accord, par la ratification parlementaire, permettra de le concrétiser définitivement. Il reste toutefois encore une étape. En Macédoine, la convocation d'un référendum est prévue en septembre prochain, puisqu'en effet, changer le nom du pays suppose une modification constitutionnelle qui doit être avalisée par un référendum. L'issue de la consultation, je dirais, n'est pas totalement acquise.
Oui, c'est ça, pour l'instant. Et en plus, seul le Parlement de Macédoine a ratifié l'accord. Il restera encore au Parlement grec aussi à le ratifier, hein, ce qui n'est pas gagné forcément, puisqu'il y a eu une motion de censure à laquelle vient d'échapper Alexis Tsipras au sujet de cet accord.
Tout à fait. Alexis Tsipras a en réalité une majorité extrêmement étroite. Son partenaire de coalition, les Grecs indépendants, c'est-à-dire un parti de droite souverainiste, est contre l'accord. Pour obtenir la ratification parlementaire, Alexis Tsipras va donc devoir compter sur les députés de centre-gauche du PASOK, le parti socialiste panhellénique. Cela veut donc dire que cette ratification n'est pas totalement acquise. Il faut en tout cas que les choses se fassent vite, que l'on ne perde plus de temps, puisque dans un an à peu près, de nouvelles élections sont prévues en Grèce. Et pour le coup, le parti de gauche, Syriza, d'Alexis Tsipras, n'aborde pas ces élections en position très favorable. D'ailleurs même, Alexis Tsipras prend clairement un risque politique en avançant si vite avec la Macédoine, puisque bien évidemment la droite conservatrice, notamment Nouvelle Démocratie, sans parler de l'extrême droite avec des formations comme Obdoré, va essayer de mobiliser contre Syriza autour de l'accord, en prétendant qu'il s'agit d'une trahison des intérêts nationaux grecs.
Oui, et d'ailleurs trahison, c'est ce qui a été le mot qui a été employé aussi par l'opposition souverainiste et nationaliste en Macédoine, hein, le chef du parti VMRO des PMNE, Hristijan Mikovski, qui disait trahison des attentes des citoyens, capitulation. Si on s'en tient juste au terme de l'accord, qu'est-ce que gagne la Macédoine ? Des symboles, je le disais, une reconnaissance internationale ?
Alors écoutez, je crois que dans les deux cas, on emploie en réalité exactement le même type d'argument en parlant de trahison. Si l'on regarde objectivement l'accord, je crois qu'il est très loin d'être défavorable à la Macédoine. Je pense même que c'est à peu près le maximum de ce qu'elle pouvait raisonnablement espérer. Concrètement, le pays s'appellera Macédoine du Nord, ce qui est une dénomination assez neutre et se base uniquement sur une référence géographique incontestable.
Oui, entre cinq possibilités de noms d'ailleurs, dont voilà, certains liés à une ville du Nord. Ouais.
Voilà, mais là c'est clairement l'appellation la plus neutre et donc partant la plus acceptable. Le point le plus important, c'est que le gentilé, c'est-à-dire l'appellation, la dénomination des habitants du pays, restera macédonien ou citoyen de la République de Macédoine du Nord. Ça, c'est un point très important parce que beaucoup en Grèce demandaient à ce qu'il y ait une référence du type slavo-macédonien, ce qui aurait posé d'autres problèmes puisque tous les citoyens de la République de Macédoine ne sont pas d'origine slave, un quart d'entre eux appartenant en effet à la minorité albanaise. Donc là, obtenir le maintien d'un gentilé sous la forme macédonien, c'est une victoire très importante pour Skopje. Le nom de la langue parlée demeurera également le macédonien. De ce point de vue-là, je crois que la Macédoine obtient à peu près le maximum de ce qu'elle pouvait obtenir. D'ailleurs, pour le coup, la droite nationaliste, Vamerlo de Pomenoe, a du mal à mobiliser parce que beaucoup de citoyens n'estiment pas que cet accord représente, comme le prétend le Vamerlo, une trahison de l'identité ou des intérêts nationaux.
D'un autre côté, est-ce que du côté grec, le problème des conservateurs et, on va dire, souverainistes, c'est pas qu'ils ont l'impression de donner, en quelque sorte, une nationalité grecque aux Macédoniens? À entendre leur discours, c'est un peu ça. Ils disent une nationalité et des symboles forgés en Grèce. Voilà les Macédoniens qui les ont. Est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'on parle d'irrédentisme à la fois social, d'opposition politique, un irrédentisme, on pourrait dire, culturel très fort, hein, qui tire ses origines dans l'histoire antique, hein, on peut le dire, Philippe de Macédoine et la Grèce?
Alors écoutez, il y a beaucoup de manières de poser le problème. En réalité, il faut bien comprendre que la Macédoine est une région historique dont les frontières sont à peu près connues depuis des siècles. Pour Athènes, le problème a commencé à se poser quand ce qui était la République fédérée de Macédoine est devenu un État indépendant. Et ce qu'Athènes et les nationalistes macédoniens n'acceptaient pas, c'était qu'un pays indépendant porte le nom de Macédoine.
Donc en 91, à l'éclatement.
Considéré comme appartenant au patrimoine hellénique. Pour autant, Athènes ne contestait pas, n'avait pas de revendication sur le territoire de la République en question. L'enjeu était uniquement au niveau du nom, donc des symboles. Et pour le coup, au cours des 10 dernières années, quand la droite nationaliste macédonienne, le Vamerlo de Pomenoe, était au pouvoir, elle a multiplié les provocations en surjouant ce que l'on a appelé l'antiquisation de la Macédoine, c'est-à-dire en construisant des statues, des monuments pseudo-antiques, ce genre de choses qui sonnaient bien évidemment comme autant de provocations pour les Grecs. Là, les sociodémocrates arrivés au pouvoir il y a un an à Skopje ont totalement rétro-pédalé, ont arrêté ce genre de provocations. Il est donc difficile de parler d'irrédentisme. Le terme d'irrédentisme, en réalité, plutôt employé par Athènes pour dénoncer d'éventuelles velléités des Macédoniens de Skopje de vouloir réunifier la Macédoine historique telle qu'elle existait dans l'Empire ottoman. Mais là, pour le coup, il sera clairement spécifié dans la Constitution que la Macédoine n'a aucune visée irrédentiste sur les territoires qui l'entourent et qu'elle ne s'octroie pas de droits particuliers de protection des minorités macédoniennes en Grèce ou en Bulgarie, se contentant en la matière du cadre général des dispositifs européens de protection des droits des minorités.
Donc voilà une normalisation, on pourrait dire, bilatérale et régionale. Est-ce que, du coup, à contrario, quand même, un des risques avec cet accord, c'est pas d'ouvrir de nouvelles perspectives pour d'autres pays? Je pense à la Bulgarie notamment, qui veut aussi une adaptation maintenant de la constitution macédonienne sur la question de justement la manière dont la Macédoine considère les relations avec les citoyens, dit-elle dans sa constitution, des pays voisins. En clair, une clause anti-ingérence.
Oui, tout à fait, mais ça c'est effectivement cette question des minorités macédoniennes. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, le dilemme identitaire des Slaves macédoniens, c'est qu'ils vivent dans un pays qui a donc été partagé, repartagé au gré des vents contradictoires de l'histoire du XXe siècle, que l'existence et le nom de leur pays étaient contestés par la Grèce, mais pas seulement. Leur identité nationale était traditionnellement contestée par les nationalistes bulgares ou également serbes. Pour les nationalistes serbes, les Macédoniens sont des Serbes du Sud. Pour les Bulgares, ce sont des Bulgares de l'Ouest. Et l'affirmation d'un peuple macédonien spécifique est quelque chose qu'avait en réalité réussi à imposer Tito à l'époque de la Yougoslavie. C'est aujourd'hui à cette identité-là que se réfèrent les habitants macédoniens de la République de Macédoine, et en sachant, dernier élément, que dans cette République, les Macédoniens ne représentent qu'à peu près 65 à 66% de l'ensemble de la population, puisqu'il y a une forte minorité albanaise, à peu près un quart de la population du pays, et puis d'autres communautés minoritaires plus petites. Donc ce dilemme identitaire des Macédoniens et cette angoisse existentielle, elle est bien réelle. Je crois qu'il serait dangereux de la négliger. Elle existe. Aujourd'hui, néanmoins, je pense que Zoran Zaev peut forger un consensus sur deux points, sur le fait que le compromis passé avec la Grèce n'est pas mauvais, et d'autre part que c'est ce compromis qui permettra au pays de rejoindre et l'Union européenne et l'OTAN, ce qui représente bien évidemment de très fortes garanties de sécurité pour son intégrité territoriale.
Et alors précisément, Zoran Zaev, ces derniers temps, a beaucoup exprimé sa volonté de pouvoir adhérer à l'OTAN. C'est vrai qu'il y a eu une grande proximité affichée entre le négociateur américain Nimetz et Zoran Zaev. Je crois que Nimetz a parlé d'un personnage de grand leadership, par exemple, pour Zoran Zaev. Mais est-ce que c'est pas la perspective d'adhésion à l'UE qui a pressé la conclusion de cet accord, sachant qu'il y avait ce sommet européen qui se tient le 28-29 et qu'il fallait une conclusion avant le 25 juin?
Oui, donc il y avait, là pour le coup, il y avait un objectif, une date butoir qui était clairement fixée. Après, le fait est que durant tout ce long processus, l'Union européenne a brillé par son absence. Il faut tout de même rappeler que la Macédoine a le statut de pays candidat depuis décembre 2005. Ce qui veut dire que durant 13 ans, l'Union européenne n'a pas été capable de résoudre un différend opposant l'un de ses États membres à un pays ayant le statut officiel de candidat. Je crois pour le coup qu'effectivement l'OTAN s'est beaucoup emparée du dossier au cours de la dernière année parce qu'elle considère que la Macédoine est une clé de la stabilité et de la sécurité régionale. De ce point de vue-là, je pense que l'engagement de l'OTAN a certainement joué un rôle décisif, même si existait cette échéance du 25 juin. Qui a priori est donc tenu.
Merci beaucoup Jean-Arnaud de Reims. Et puis il y a aussi ce soutien du Premier ministre hongrois Viktor Orban aux nationalistes macédoniens dont on reparlera. En tout cas, on mettra en ligne la partie d'interview qui concerne ce fait sur le site internet de France Culture. Merci beaucoup.